Chapitre 6. Aucun incident ne marqua la fin de la promenade. Cornelius Hornsby et la paisible Kate se rapprochèrent et la conversation devint générale. Quaterkem, ivre de joie, répondait au hasard à toutes les questions. On remonta le Loiret jusqu'à sa source. Il prit les rames et conduisit la barque avec une telle adresse que l'anglais lui fit compliment.
C'est mon premier métier, répondit-il simplement. Tout jeune, j'allais à la pêche avec mon père. Je faisais manœuvrer la barque pendant qu'il tendait les filets.
Le soir, les quatre voyageurs dînèrent à la même table, et Quaterkem eut le bonheur de presser, en se retirant, les doigts divins de la belle Alice. L'amour, dans ses commencements, est timide et se contente de peu. Cependant, notre ami sentait bien que cette vie trop heureuse ne pouvait pas durer longtemps. Carrison allait revenir et reprendrait son bien. Il frémissait de colère à la pensée qu'un autre vivait dans une familiarité presque intime avec celle qu'il aimait plus que la vie. Et comme il n'était pas homme à délibérer longtemps, il résolut de demander à M. Hornsby la main de sa fille dès le lendemain. Malheureusement, la première personne qu'il aperçut fut le jaloux Hercule qui passa près de lui sans le saluer.
Voilà une grande rencontre de mauvais augure, pensa le Breton.
Quelques instants après, parut la belle Alice qui tendit la main aux deux rivaux et qui sourit fort gracieusement à Quaterkem.
Déjà revenu, dit-elle à Hercule. Vous n'avez donc pas fait de procès au sergent de ville? Vous avez laissé outrager impunément le nom anglais?
Il n'y a rien à faire. Les avocats eux-mêmes disent que je perdrai mon procès.
C'est égal, il eût été beau d'essayer. Nous nous sommes fort amusés hier, dit-elle. Et nous avons fait avec M. Quaterkem une charmante promenade. M. Quaterkem, M. Harrison. Hercule, M. Quaterkem.
Tous deux se saluèrent avec une froide politesse. La situation devenait embarrassante et Miss Hornsby ne savait plus que dire. Lorsque le vieux Cornelius entra dans le salon, tout heureux d'avoir touché 40 ou 50 rotules et tibias de moines qui remplissent les caveaux de l'église Saint-Agnan et dont la vue fait plaisir à tous les Anglais.
« Monsieur, dit Quaterkem au vieil Anglais, j'ai découvert de l'autre côté de la Loire, à 3 lieues d'ici, un vieux château qui est une merveille. Voulez-vous venir le voir avec moi ?
Je suis prêt. Venez-vous, Hercule ?
Non, je suis fatigué, répondit-il. Je reste avec les dames. »
Cornelius et Quaterkem montèrent seuls en voiture et prirent le chemin de la Sologne.
« Eh bien, dit Cornelius, quel est ce beau château ? De quelle date ? De quel style ? Byzantin ou gothique ? »
Quaterkem était ému au point de ne pouvoir répondre.
« Voilà donc, pensait-il, le maître de ma destinée. Par quels arguments pourrais-je le convaincre ou le toucher ? Monsieur, dit-il, je ne veux pas vous cacher plus longtemps la vérité. Ce voyage est une ruse que j'ai imaginée pour vous parler librement. Le château n'existe pas. »
« En vérité, dit Cornelius qui crut avoir affaire à un fou. Et à quoi pensez-vous ?
« Monsieur, j'aime passionnément votre fille et je vous la demande en mariage. »
L'Anglais éclata de rire.
« C'est pour ce beau dessein que vous m'amenez en plein Sologne.
Cher monsieur, vous pouviez vous en épargner la peine. Primo, ma fille n'est pas à marier. Secondo, quelque cas que je fasse de vos rares talents, quelque estime et même quelque sympathie que j'ai pour votre caractère, j'ai juré de ne marier ma fille qu'à un Anglais et je tiendrai ma promesse.
Mais...
« Voyons, monsieur, raisonnons un peu, si vous voulez. Vous aimez ma fille, dites-vous. En conscience, croyez-vous être le seul ? Et faut-il que je la donne en mariage au premier venu sous prétexte qu'il l'aime ? Êtes-vous anglais, d'abord ?
Non.
Êtes-vous riche, au moins ?
J'ai 1000 francs dans mon portefeuille et une invention qui peut faire la fortune d'un peuple.
Oui, mais qui n'a pas fait la vôtre. Êtes-vous noble ?
Je vous l'ai dit, ma noblesse date de la croisade de Saint-Louis. »
Très bien, mais votre père était matelot, et votre grand-père aussi.
C'était de très honnêtes gens, répliqua fièrement Quaterkem, et qui ont servi leur patrie avec courage.
Je ne vous blâme pas, dit l'Anglais, d'être fier de leur nom, mais en bonne justice, pensez-vous que ma fille et moi nous en soyons charmés? Est-ce quelque chose à dire dans un salon de Paris ou de Londres, mon beau-père était matelot?
Oh, les Parisiens se moqueront fort de cela.
Peut-être, surtout si vous êtes riche, mais à Londres. « Ce n'est pas tout. Vous demandez la main de ma fille. À quel titre ?
Votre père a tué Nelson et m'a, du même coup, enlevé la prairie, à laquelle je pouvais légitimement aspirer si Lucius Hornsby était devenu amiral. Voilà une chose que je ne pardonnerai jamais, et qu'aucun Anglais ne vous pardonnerait. Croyez-moi, cher monsieur, restons bons amis, oubliez cette idée bizarre qui vous est venue en tête, je ne sais pourquoi, et allons déjeuner. Il fait un peu froid, et l'air des bords de la Loire m'a donné de l'appétit.
« C'est toute votre réponse, monsieur ?»
dit Quaterkem. « C'est tout, que voulez-vous de plus ? Vous n'êtes pas un enfant à qui on présente une dragée pour lui faire avaler une tisane amère. Vous êtes un homme d'esprit et de cœur, et vous saurez prendre votre parti des maux inévitables. »«
Monsieur, dit Quaterkem, j'aime Miss Hornsby jusqu'à la mort, et je vous jure qu'elle n'aura pas d'autre mari que moi. »«
Mon cher monsieur, vous êtes fou. Ma fille épousera Harrison. »«
Elle ne l'épousera pas.
Elle l'épousera. Et pour plus de sûreté, je vais l'emmener en Angleterre dès demain. »
« Emmenez-la si vous voulez, je vous suivrai, je provoquerai Hercule. »«
Quel enragé ! Et si vous tuez Hercule, je vous refuserai bien plus sûrement la main d'Alice. »«
Je l'enlèverai. Vous ne voudrez pas faire son malheur, et vous consentirez au mariage. »«
Je ne consentirai à rien. J'ai promis ma fille à Harrison, et il l'aura. »«
Harrison est un sot qui ennuiera votre fille et qui l'ennuie déjà. »«
Qu'en savez-vous ?
Elle me l'a dit. »«
C'est impossible. Alice sait qu'elle doit l'épouser, et elle l'aime. »
Elle ne l'aime pas.
Elle l'aime.
Elle ne l'aime pas, vous dis-je.
Eh bien, l'amour n'est pas nécessaire en ménage. Alice est une fille vertueuse et bien élevée qui m'obéira volontiers.
Elle est vertueuse et bien élevée, mais elle n'obéira pas.
Peu à peu, Cornelius s'échauffait, et la discussion allait dégénérer en querelle lorsque Quaterkem, qui s'en aperçut, tourna bride et reprit le chemin d'Orléans.
C'est assez pour une fois, pensa-t-il. Il ne faut pas faire buter ce vieil entêté.
Au fond, il n'était pas trop découragé. Il s'était attendu et préparé d'avance à la réponse de l'Anglais. Aussi ne chercha-t-il plus qu'un moyen de tourner la difficulté. En arrivant à l'hôtel, il alla trouver Hercule. Le digne gentleman, vêtu d'une jaquette écossaise et coiffé d'une casquette sans visière, avait la grâce, la désinvolture, l'aisance et la noblesse des palefreniers anglais. Dès qu'il aperçut Quaterkem, il leva les yeux vers le plafond et parut en contempler les moulures avec beaucoup d'attention.
« Monsieur, dit Quaterkem, voulez-vous, je vous prie, vous promener un quart d'heure avec moi ? J'ai à vous entretenir d'une affaire très importante. »«
Je n'ai point d'affaire avec vous, dit l'Anglais. »«
C'est possible, dit Quaterkem, mais j'en ai avec vous, moi. Venez. »
Hercule le suivit non sans peine, et tous deux allèrent se promener sur les bords de la Loire.
« Aimez-vous beaucoup, Miss Hornsby ?
Dit Quaterkem. L'Anglais le regarda sans répondre.
« Je vois bien, continua Quaterkem, que ma question vous étonne un peu. Il faut que vous sachiez que j'aime passionnément Miss Hornsby, et que je veux moi aussi l'épouser. Or, Monsieur Hornsby s'est mis dans la cervelle de vous donner la préférence, et cette idée bizarre s'est vissée si profondément dans son crâne que je ne viendrai jamais à bout de la dévisser sans votre aide. Voyons, parlez sincèrement. Aimez-vous Miss Hornsby ?»«
De quoi vous mêlez-vous ? Dit Hercule.
« Enfin, vous persistez à vouloir l'épouser ?»«
Parbleu ! Et je vous trouve hardi, monsieur, de me parler sur ce ton. »«
Quant à cela, dit Quaterkem, on parle comme on peut. L'essentiel est qu'on s'explique. En bon français, vous ennuyez Miss Hornsby. »«
Elle vous a chargé de me le dire ?»«
Pas tout à fait, mais je l'ai deviné. Et j'ai cru bien faire de vous en prévenir. »«
Monsieur, dit Harrison, cherchez-vous une querelle ?»«
Point du tout. J'ai reconnu à des signes certains que vous ennuyez Miss Hornsby. » De plus, je l'aime et je lui plais.
Vous lui plaisez.
Je lui plais. Elle ne me l'a pas dit encore, mais c'est visible. Eh bien, je vous avertis charitablement et dans votre intérêt de faire une retraite honorable. Est-ce là un mauvais procédé, je vous le demande.
Monsieur, dit l'Anglais, savez-vous que vous commencez à m'échauffer les oreilles?
Je l'ignorais, répondit Quaterkem, mais je vous crois, une dernière fois. Renoncez-vous à épouser Miss Hornsby?
L'Anglais haussa les épaules sans parler.
Savez-vous, reprit Quaterkem, qu'on s'est moqué de vous à Paris ?
Hercule rougit de colère.
Quel est l'insolent qui a osé ? S'écria-t-il. L'insolent, dit le Breton, c'est moi-même.
Et il lui expliqua la mystification dont il avait été victime.
Monsieur, dit l'Anglais, vous m'en rendrez raison. Allons donc, ce n'est pas sans peine, s'écria Quaterkem. Quel jour aura lieu notre rencontre ?
Demain.
À quelle heure ?
À 6 heures du matin.
Où ?
Ici même, Monsieur Hornsby sera mon témoin.
Les deux amis se séparèrent. Quaterkem, rentré à l'hôtel, écrivit à ses 17 amis la lettre suivante.
Orléans, 18 avril 1859. Cher 17, après-demain, à 6 heures du matin, il faut que j'envoie le noble, le sage, l'aimable Harrison dans un monde meilleur, ou que j'aille moi-même y prendre place. Croiriez-vous que ce Saxon mal élevé a le mauvais goût de me disputer le cœur et la main de la plus belle des filles d'Albion ? C'est incroyable, en vérité. Vous pensez bien que je suis trop sage pour me laisser tuer comme un lièvre dans un sillon, mais il faut tout prévoir. Je vous envoie sous ce pli toutes les figures, toutes les planches et toutes les explications nécessaires à la construction de mon aérostat omnibus. Il ne faut pas que le genre humain pâtisse de mes folies. Je n'ai pas le droit d'emporter en mourant ma gloire et mon secret avec moi. Adieu, mes chers et bien-aimés 17, mes seuls amours après la divine Alice. Admirez comme tout s'enchaîne en ce monde. Si je n'avais pas reçu l'argent le 15 avril, je n'aurais pas acheté le plat à barbe du grand Napoléon. Si je n'avais pas eu le plat à barbe, je ne l'aurais pas cassé et je ne serais pas allé à l'opéra comique. Si je n'étais pas allé à l'opéra comique, je n'aurais pas vu Miss Alice Hornsby, fils du docteur Cornelius. Si je ne l'avais pas vu, je ne serais pas amoureux. Si je n'étais pas amoureux, j'aurais laissé tranquille le bourru Harrison de la maison Hornsby, Harrison et compagnie. Et finalement, je ne serais pas en danger d'être mis prochainement au Panthéon. Car je compte bien, mes chers et fidèles 17, que vous prendrez soin de ma gloire. S'il m'arrive de passer le Styx. Venez tous sur mon cœur. Vôtre, Yves Quaterkem.
Notre ami passa le reste de la journée fort tristement. Alice ne parut pas au dîner et resta dans sa chambre avec la paisible Kate. Cornelius essaya de parler archéologie, mais Quaterkem ne l'écoutait pas et bâillait impitoyablement au nez de la maison Hornsby, Harrison et compagnie. Quant à Harrison, il ne prononçait pas une syllabe. Le soir, comme le Breton cherchait partout un témoin pour son duel, il entra dans un café où l'armée française jouait au billard en buvant de l'absinthe et discutant le mérite de la jeune Jenny, qui n'est pas la même que Jenny l'ouvrière. Au cœur content, content de peu. Jenny était une aimable soloniote qui faisait le bonheur des officiers, sous-officiers et soldats du 75e de ligne, et qui jouissait à ce titre d'une grande popularité dans ce noble régiment. De tous les officiers qui étaient dans le café, un seul ne prenait aucune part à la conversation. C'était un jeune homme à la moustache blonde, à la figure mélancolique, qui était assis, les pieds appuyés sur la table, au niveau de son menton. Il fumait doucement en regardant le ciel, c'est-à-dire le plafond noirci qui était au-dessus de sa tête. « Bon, voilà mon homme !» pensa Quaterkem. Et il alla droit à lui.
« Monsieur, dit-il en le saluant poliment, voulez-vous me permettre de vous demander un petit service ?»
Le jeune officier mit pied à terre et le regarda pendant quelques secondes, et, content sans doute de la physionomie de Quaterkem, lui répondit avec la même politesse « Asseyez-vous, monsieur, je vous prie, et contez-moi votre affaire. »«
Monsieur, reprit le Breton, voulez-vous avoir la bonté d'être mon témoin ? Je me bats en duel demain matin avec un Anglais. »
« Très volontiers, monsieur. L'affaire peut-elle s'accommoder ?»«
En aucune façon. »«
Encore mieux. Et sans être trop curieux, pourrais-je vous demander... »«
Pourquoi je veux tuer cet Anglais ?»« Écoutez, je vous prie, soyez juge entre nous. »«
Garçon, cria l'officier, deux verres d'absinthe et des cigares. »« Monsieur, je suis à vous. »«
L'Anglais et moi, nous aimons la même femme. »« Or, le dit Anglais, qui est le premier en date, veut absolument l'épouser. » Je l'ai prié poliment de partir, il tient bon et ne veut pas lâcher prise. Que feriez-vous à ma place ?
Précisément ce que vous allez faire, et je le prierai de s'aligner avec moi et d'en découdre.
Eh bien, monsieur, voilà toute la question. Avez-vous besoin de quelque autre éclaircissement ?
À quoi bon ?
Je compte sur vous pour demain matin.
C'est convenu. Le lendemain, les deux combattants et les deux témoins parurent sur le champ de bataille. Monsieur Hornsby voulut réconcilier les deux adversaires et s'approcha de Quaterkem. Aux premières ouvertures de paix, l'entêté Breton se contenta de répondre
« Cela dépend de vous. Donnez-moi Miss Alice en mariage et je réponds de tout. Au fond, je ne hais pas Harrison. Qu'il s'en aille et qu'il renonce à votre fille, je vous garantis que nous serons les meilleurs amis du monde. »
« Je ne veux pas payer les frais de guerre, » dit Cornelius.
« Comme il vous plaira.
J'ai juré de ne jamais donner ma fille à un Français. »
et moi j'ai juré de l'épouser.
Mais monsieur, après tout, Charbonnier est maître dans sa loge. Harrison me plaît.
Eh bien, n'en parlons plus.
C'est mon meilleur ami.
Tant mieux, chargeons les pistolets.
Ce mariage est décidé depuis 2 ans. Chargeons les pistolets. Et pour me faire manquer à ma parole, il faudrait qu'Harrison eût commis envers moi la plus horrible trahison.
Chargeons les pistolets!
Enfin, monsieur, quoi qu'il arrive, je ne vous reverrai jamais.
Au nom du ciel! Chargeons les pistolets!
Cette fois, il fallut céder. Et les deux adversaires furent mis en face l'un de l'autre à 20 pas de distance. Harrison, favorisé par le sort, tira le premier. La capsule, mal assujettie sur le chien, n'éclata pas.
God damn!
S'écria Harrison furieux. Et il jeta son pistolet à terre avec désespoir. Par malheur, le premier choc avait mis la capsule à sa place, et le second la fit éclater. Le coup partit, et si malheureusement que la balle alla frapper le pied de Cornelius Hornsby, qui regardait tranquillement le combat. Cornelius poussa un cri de rage.
Oh, animal, maladroit, butor, imbécile, oh, assassin, imbécile, anbatté,
s'écria-t-il d'abord. Harrison se précipita vers lui pour le soutenir dans ses bras, mais le vieux gentleman, outré de sa blessure, le repoussa violemment et s'assit dans l'herbe en poussant des gémissements.
« Aïe, triple buse qui va tirer sur moi au lieu de tirer sur son adversaire. Aïe, aïe, vit-on jamais une buse pareille ?»«
Mais mon cher ami, » disait le désolé Harrison.
« Toi, mon ami, double traître !»«
De grâce, mon cher beau-père. »
« Beau-père, moi ! Tu peux aller chercher femme ailleurs, je te le garantis, beau-père ! Tu comptais sur ma succession, je parie, et tu étais pressé de m'assassiner. Beau-père !
Il te faut un beau-père pour tirer à la cible. Et moi qui allais donner ma fille à mon meurtrier, grand Dieu, je vous remercie de m'avoir épargné ce remords !» Pendant ce discours, Quaterkem et son témoin, qui avaient grand-peine à s'empêcher de rire, donnaient des soins aux blessés. Harrison était immobile et comme étourdi de sa disgrâce. Il tournait et retournait dans tous les sens le fatal pistolet et oubliait complètement le duel même qui l'avait amené sur le terrain. Malheureusement, le vieil anglais s'en aperçut.
« Eh bien, » dit-il à Quaterkem, « qu'attendez-vous pour continuer l'affaire? C'est à vous de tirer. Faites-moi justice de ce misérable qui a voulu m'assassiner. »
Harrison reprit son sang-froid et se posta de nouveau en face du Breton, tout prêt à essuyer stoïquement son feu. Mais Quaterkem désarma son pistolet et lui tendant la main,
« Mon cher monsieur, » dit-il, « vous pouvez partir. »«
Je ne veux pas de grâce, » dit l'anglais.
« Non, pas de grâce pour cet assassin !»
cria Cornelius en ôtant sa botte.
« Brûlez-lui la cervelle comme il faut !»«
Allez au diable, vieux fou !» s'écria Harrison exaspéré.
« Pour une balle qui se trompe de chemin et qui lui a peut-être chatouillé le pied, il en fait un tapage d'enfer !»«
Monsieur, » dit Quaterkem à Hercule, « allez-vous-en. » « Vous ferez votre paix une autre fois. Il n'est pas en état de vous entendre. »«
Je ne partirai pas, » répliqua l'entêté Hercule, « avant que vous ayez tiré sur moi. »«
Vous moquez-vous du monde et croyez-vous que j'ai soif de votre sang ? Votre mariage est rompu et ne se renouera pas. C'est tout ce qu'il me faut. Adieu, cher monsieur. Si vous voyez la reine Victoria, présentez-lui, je vous prie mes respects. »
L'anglais s'en alla sans répondre.
« Mon Dieu, que ce pauvre garçon est mal élevé !» dit Quaterkem à son témoin. « Il s'agit maintenant de transporter M. Hornsby à l'hôtel. »
Ils le prirent chacun par un bras et le conduisirent, clopin-clopant, jusqu'à sa chambre. Arrivé là, l'officier salua, échangea une poignée de main avec le Breton et partit. Alice et Mme Hornsby eurent grand-peine à comprendre ce qui s'était passé et, suivant l'usage, versèrent des larmes abondantes, ce qui consola fort le malheureux Cornelius. Dès le premier examen, le chirurgien rassura les dames et s'engagea à remettre le blessé sur pied dans 1 mois. Harrison, qui se tenait caché dans l'antichambre et qui attendait timidement la réponse du chirurgien, entr'ouvrit la porte avec précaution et croyant le moment favorable.
« Ce ne sera rien, »
dit-il avec sa gaucherie habituelle.
« Vous avez eu plus de peur que de mal ?»
À ces mots, le blessé bondit si brusquement hors de son lit que l'infortuné Harrison recula.
« Plus de peur que de mal » s'écria-t-il. « Bourreau, veux-tu donc m'achever ? Va-t'en, scélérat, va-t'en, va-t'en !»
Alice lui fit signe de sortir de la chambre et le suivit.
« Contez-moi donc, s'il vous plaît, mon cher Harrison, » dit-elle. « Pourquoi vous cherchez querelle à M. Quaterkem ?»«
Je n'ai pas cherché cette querelle, » dit Hercule. « Je l'ai subie !»
et il répéta la conversation qu'il avait eue avec son adversaire.
« Vous êtes deux rares extravagants !» dit-elle en riant. « Je vous pardonne parce qu'il n'y a pas eu de sang versé, mais ne reparaissez plus devant moi. Alice, vous m'aiderez à apaiser votre père.
C'est impossible, il est trop irrité contre vous.
Ou vous êtes trop prévenu en faveur de ce Français.
Moi ?
Dit-elle en rougissant.
Où prenez-vous cela, je vous prie ?
C'est lui qui me l'a dit.
Belle autorité, Monsieur Quaterkem est un fat, et vous êtes un impertinent de prétendre deviner qui j'aime ou que je hais. Alice, je vous aime tant, et je suis malheureux. Au nom du ciel, obtenez ma grâce de votre père. »
Elle garda le silence. Hercule était condamné. Il le sentit, et sans insister davantage, il partit le soir même pour Calcutta. Le lendemain, Quaterkem reçut de ses amis la lettre suivante.
« Homme de génie, laisse là les Anglais et leurs filles et monte en wagon. Ne t'arrête pas à couper en morceaux le bourru Harrison. C'est du temps perdu, et tu te dois au genre humain. Ton invention est un coup de génie que tous les gens du métier trouvent sublime. Ton aérostat omnibus va dans moins d'un mois porter aux extrémités du monde la gloire de ta patrie et la tienne. Ne dis-tu pas que tu manques d'argent ? 100 000 francs suffisent à ton premier omnibus aérien et nous avons déjà plus de 600 000 francs à t'offrir. La somme est prête et déposée chez le notaire. Ce soir, immense génie, à la cheville de qui n'irait pas Christophe Colomb, nous t'attendrons à la gare du chemin de fer d'Orléans. À toi, les 17. »
Aussitôt, il se présenta chez le vieil Hansbaye. Sa fille le reçut seul.
« Alice, dit-il, je vais partir à midi. Je ne vous reverrai peut-être jamais. M'aimez-vous ?»«
Et vous ? » répondit-elle.
« Jusqu'à la mort ? » ?»«
Eh bien, ayez confiance en moi et revenez. Quoi qu'il arrive, je n'aurai pas d'autre mari que vous. Mais qui vous force à partir ?»
Quaterkem lui montra la lettre de ses amis. Elle la lut et lui dit
« Vous avez raison, il faut partir. Fiez-vous à moi du soin de fléchir mon père. »
Elle lui tendit la main. Quaterkem partit plein d'amour et d'espoir, et plusieurs jours s'écoulèrent sans que Miss Hornsby entendît parler de lui. Pendant ce temps, le vieil Anglais guérissait à vue d'œil et s'étonnait du silence mélancolique de la belle Alice. « Est-ce que tu regrettes Harrison ? » dit-il un jour.
« Pas le moins du monde, cher père, » répondit-elle.
« Est-ce que tu t'ennuies en France ? » ?»«
Encore moins. »«
Veux-tu aller à Naples et voir le Vésuve ? » ?»«
Non. » »«
Veux-tu revenir à Londres ? » ?»«
Non, mon père. Londres m'ennuie. » »«
Ah !» Il garda le silence, devinant la pensée de sa fille. « Est-ce que vraiment elle aimait ce Français ? » pensait-il. « Épouser le fils du meurtrier de Nelson, ce serait un sacrilège. Ah, que les pères sont malheureux !» Dans cette extrémité, il résolut de retourner à Londres et partit pour Paris le soir même. Comme il arrivait, il trouva dans un journal du soir la note suivante. On parle d'une immense découverte qui est due au génie d'un de nos professeurs les plus distingués, M. Yves Quaterkem. C'est un ballon omnibus qu'on dirige à volonté et qui parcourt en peu d'instants des distances prodigieuses. La première expérience faite hier devant une commission de l'Académie des sciences a parfaitement réussi. Jamais le génie humain n'a fait de découvertes plus utiles et plus belles. Adieu les diligences et les chemins de fer. En quelques heures, l'homme va faire le tour de la planète. Le journal tomba de ses mains et fut ramassé par Alice.
« Eh bien, dit-elle, ai-je tort de l'aimer ?»
« Tu l'aimes donc ?» Pour toute réponse, elle lui sauta au cou et lui prodigua les plus tendres caresses. Il se laissa toucher car, après tout, le vieil Hornsby de la maison Hornsby, Harrison et compagnie, n'est pas un méchant homme, ni un père barbare, ni un calculateur maladroit. Et il sait très bien que l'inventeur des ballons omnibus ne restera pas longtemps pauvre et obscur. Or, que veulent tous les pères ? S'enrichir et chercher pour leurs filles des maris plus riches qu'eux-mêmes ? C'est l'évangile de toutes les familles. C'est pourquoi, ayant bien pesé et calculé les avantages et les inconvénients, il écrivit le 6 mai dernier à notre ami Quaterkem le billet suivant. Monsieur Hornsby, de la maison Hornsby, Harrison et compagnie, a l'honneur de prier Monsieur Yves Quaterkem de le favoriser d'une visite demain matin à 11 h. Son tout dévoué, Cornelius Hornsby. Quaterkem n'eut garde de manquer au rendez-vous. Vous devinez le reste. Ils se marieront le 25 mai prochain à la mairie du 2e arrondissement à 8 h du soir. Leur bonheur est sans nuage. Dans un an, Quaterkem sera l'homme le plus illustre des deux hémisphères. Son ballon est admirable et marche à merveille. Le 26 mai, aussitôt après la cérémonie nuptiale, notre ami doit prendre avec sa femme le chemin de la Chine, où il arrivera le soir même, et passera dans une maison de campagne louée d'avance, le temps de la lune de miel.